Deuxième partie, chapitre 4. Si fermée que fut la maison de Brown, si secrète que resta la tragédie bourgeoise qui s'y jouait, quelque chose en avait transpiré au dehors. Dans cette ville, nul ne peut se flatter de cacher sa vie. C'est étrange, dans les rues, personne ne vous regarde. Les portes des maisons et les volets sont clos, mais il y a des miroirs accrochés au coin des fenêtres, et l'on entend, quand on passe, le bruit sec des persiennes qui s'entr'ouvrent et se referment. Personne ne se soucie de vous. Il semble qu'on vous ignore. Mais vous vous apercevez qu'aucune de vos paroles, aucun de vos gestes n'ont été perdus. On sait ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez vu, ce que vous avez mangé. On sait même, on se flatte de savoir ce que vous avez pensé. Une surveillance occulte, universelle, vous enveloppe. Domestiques, fournisseurs, parents, amis, indifférents, passants inconnus, tous collaborent d'un consentement tacite à cet espionnage instinctif dont les éléments dispersés se centralisent on ne sait comment. On observe pas seulement vos actes, on scrute votre cœur. Dans cette ville, nul n'a le droit de réserver le secret de sa conscience. Et chacun a le droit de se pencher sur elle, de fouiller dans vos pensées intimes, et si elle choque l'opinion, de vous en demander compte. L'invisible despotisme de l'âme collective pèse sur l'individu. Il est toute sa vie un enfant en tutelle. Rien de lui n'est à lui. Il appartient à la ville. Il avait suffi qu'Anna, deux dimanches de suite, s'abstint de paraître à l'église pour réveiller les soupçons. En temps ordinaire, nul ne semblait remarquer sa présence au culte. Elle vivait à l'écart, et la ville, eût-on dit, oubliait qu'elle exista. Ce soir du premier dimanche où elle n'était pas venue, son absence était partout connue, consignée dans le souvenir. Le dimanche suivant, aucun des pieux regards qui suivaient les paroles saintes dans le livre ou sur les lèvres du pasteur ne parut distrait de sa grave attention. Aucun n'avait omis de constater à l'entrée, de vérifier à la sortie, que la place d'Anna était demeurée vide. Le lendemain, Anna commençait à recevoir la visite de personnes qu'elle n'avait point vues depuis des mois. Elle venait sous des prétextes variés, les unes craignant qu'elle ne fût malade, les autres prenant un intérêt nouveau à ses affaires, à son mari, à sa maison. Quelques-unes se montraient singulièrement bien informées de ce qui se passait chez elle. Aucune ne fit allusion, par une maladroite adresse, à son abstention de deux dimanches au culte. Anna se dit souffrante, parla de ses occupations. Les visiteuses l'écoutaient attentives, approuvaient. Anna savait qu'elle n'en croyait pas un mot. Leurs regards se promenaient autour d'elle, dans la chambre, fouillaient, notaient, enregistraient. Elle ne se départait pas de leur bonhomie froide, au débit bruyant et affecté, mais on voyait dans leurs yeux la curiosité indiscrète qui les dévorait. Deux ou trois demandèrent, avec une indifférence exagérée, des nouvelles de M. Kraft. Quelques jours après, c'était pendant l'absence de Christophe, le pasteur vint lui-même, bel homme et bonhomme, de santé florissante, affable, avec la tranquillité imperturbable que donne la conscience d'avoir à soi la vérité, toute la vérité. Il s'enquit avec sollicitude de la santé de sa cliente, écouta poli et distrait les excuses qu'elle lui donna et qu'il ne demandait pas, accepta une tasse de thé, plaisanta agréablement. À propos de la boisson, émit l'opinion que le vin dont mention est faite dans la Bible n'était pas une boisson alcoolisée, fit quelques citations, raconta une anecdote, et au moment de partir, eut une allusion obscure au danger des mauvaises compagnies, à certaines promenades, à l'esprit d'impiété, à l'impureté de la danse, aux sales convoitises. Il paraissait s'adresser au siècle en général, non à Anna. Il se tut un moment, toussa, se leva, chargea Anna de ses compliments cérémonieux pour M. Brown, fit une plaisanterie en latin, salua et sortit. Anna resta glacée par l'allusion. Était-ce une allusion? Comment aurait-il pu savoir la promenade de Christophe et d'Anna? Il n'avait rencontré là-bas personne qui l'ait connu. Mais tout ne se sait-il pas dans cette ville? Le musicien aux traits caractéristiques et la jeune femme en noir qui dansait à l'auberge s'étaient fait remarquer. Leur signalement avait été donné. Et comme tout se répète, le bruit en était venu en ville, où la malveillance éveillée n'avait pas manqué de reconnaître Anna. Sans doute ce n'était encore là qu'un soupçon, mais singulièrement attirant, et s'y ajoutaient les renseignements fournis par la domestique d'Anna. La curiosité publique était maintenant aux aguets, attendant qu'ils se compromissent, les épiant par mille lieux invisibles. La ville silencieuse et sournoise les traquait comme un chat à l'affût. Malgré le danger, Anna n'eût peut-être pas cédé. Peut-être le sentiment de cette lâche hostilité l'eût-elle poussée à la provoquer rageusement, si elle n'avait porté en elle l'esprit pharisaïque de cette société qui lui était ennemie. L'éducation avait asservi sa nature. Elle avait beau juger la tyrannie et la niaiserie de l'opinion, elle la respectait, et elle souscrivait à ses arrêts, même quand ils la frappaient. S'ils avaient été en opposition avec sa conscience, elle eût donné tort à sa conscience. Elle méprisait la ville, et le mépris de la ville lui eût été impossible à supporter. Or, le moment venait où l'occasion allait s'offrir à la médisance publique de s'épancher. Le carnaval était proche. Le carnaval dans cette ville avait gardé jusqu'au temps où se déroule cette histoire, il a changé depuis, un caractère de licence et d'âpreté archaïque. Fidèle à ses origines, où il était une détente au dévergondage de l'esprit humain, asservi volontairement ou non au joug de la raison, nulle part il n'eut plus l'audace qu'aux époques et dans les pays où pesaient lourdement les mœurs et les lois gardiennes de la raison. Aussi la ville d'Anna devait-elle rester une de ces terres d'élection. Plus le rigorisme moral y paralysait les gestes, y bâillonnait les voix, plus durant quelques jours les gestes étaient hardis et les voix affranchies. Tout ce qui s'amassait dans les bas-fonds de l'âme, jalousie, haine secrète, curiosité impudique, instinct de malveillance inhérent à la bête sociale, crevait d'un coup avec le fracas et la joie d'une revanche. Chacun avait le droit de descendre dans la rue et, masqué prudemment, de clouer au pilori, en pleine place publique, celui qu'il détestait, d'étaler aux passants tout ce que lui avait appris un an d'efforts patients, tout son trésor de secrets scandaleux, goutte à goutte amassé. Tel en faisait la parade sur des chars. Tel promenait des lanternes transparentes où s'affichait en inscription et en images l'histoire secrète de la ville. Tel osait même se faire le masque de son ennemi, si facilement reconnaissable que les polissons du ruisseau le désignaient de son nom. Des journaux de médisance paraissaient pendant ces 3 jours. Des gens de la société se mêlaient sournoisement à ce jeu de Pasquino. Nul contrôle exercé, sauf pour les allusions politiques, cette âpre liberté ayant été la cause, à diverses reprises, de contestations entre le gouvernement de la ville et les représentants des États étrangers. Mais rien ne protégeait les citoyens contre les citoyens, et cette appréhension de l'outrage public, constamment suspendue, ne devait pas peu contribuer à maintenir dans les mœurs l'apparence impeccable dont la ville s'honorait. Anna était sous le poids de cette peur, d'ailleurs injustifiée. Elle avait peu de raisons de craindre. Elle tenait trop peu de place dans l'opinion de la ville pour qu'on eût l'idée de l'attaquer. Mais dans l'isolement absolu où elle se murait, dans l'état d'épuisement et de surexcitation nerveuse où l'avaient mise plusieurs semaines d'insomnie, son imagination était prête à accueillir les terreurs les plus déraisonnables. Elle s'exagérait l'animosité de ceux qui ne l'aimaient point. Elle se disait que les soupçons étaient sur sa piste. Il suffisait d'un rien pour la perdre. Et qui l'assurait que ce n'était pas fait? Alors c'était l'injure, le déshabillage sans pitié, l'étalage de son cœur offert en proie aux passants. Un déshonneur si cruel qu'Anna mourait de honte en y songeant. On se contait que, quelques années avant, une jeune fille, livrée à cette persécution, avait dû fuir du pays avec les siens. Et l'on ne pouvait rien faire pour se défendre, rien faire pour l'empêcher, rien faire même pour savoir ce qui allait arriver. Le doute était plus affolant encore que la certitude. Anna jetait autour d'elle des yeux de bête aux abois. Dans sa propre maison, elle se savait cernée. La domestique d'Anna avait passé la quarantaine. Elle se nommait Baby. Grande, forte, la face rétrécie et décharnée aux tempes et au front, large et longue à la base, soufflée sous la mâchoire, telle une poire tapée. Elle avait un sourire perpétuel et des yeux perçants comme des vrilles, enfoncés, sucés en dedans, sous les paupières rouges aux cils invisibles. Elle ne se départait pas d'une expression de gaieté mignarde, toujours enchantée des maîtres, toujours de leur avis, s'inquiétant de leur santé avec un intérêt attendri, souriant quand on lui donnait des ordres, souriant quand on lui faisait des reproches. Brown la croyait d'un dévouement à toute épreuve. Son air béat faisait contraste avec la froideur d'Anna. En beaucoup de choses, pourtant, elle lui ressemblait. Comme elle, parlant peu, vêtue d'une façon sévère et soignée. Comme elle, fort dévote, l'accompagnant au culte et accomplissant exactement ses devoirs de piété, avec le souci scrupuleux de ses devoirs de maison. Propreté, ponctualité, mœurs et cuisine sans reproche. Elle était, en un mot, une servante exemplaire et le type accompli de l'ennemi domestique. Anna, dont l'instinct féminin ne se trompait guère sur les pensées secrètes des femmes, ne se faisait aucune illusion à son égard. Elle se détestait, le savait et ne s'en montrait rien. La nuit qui suivit le retour de Christophe, lorsque Anna, en proie à ses tourments, alla le retrouver, malgré la résolution qu'elle avait prise de ne plus le revoir jamais, elle venait furtivement, tâtonnant les murs dans les ténèbres. Elle était près d'entrer dans la chambre de Christophe, quand elle sentit sous ses pieds nus, au lieu du contact habituel du parquet lisse et froid, une poussière tiède qui s'écrasait mollement. Elle se baissa, toucha avec les mains, et comprit. Une mince couche de cendre fine avait été répandue dans toute la largeur du couloir, sur un espace de 2 à 3 mètres. C'était Baby qui avait, sans le savoir, retrouvé la vieille ruse employée, au temps des laits bretons, par le nain Frossin pour surprendre Tristan se rendant au lit d'Iseux. Tant il est vrai qu'un nombre restreint de types, dans le bien comme dans le mal, servent pour tous les siècles. Grande preuve en faveur de la sage économie de l'univers. Anna n'hésita point. Elle continua son chemin par une bravade méprisante. Elle entra chez Christophe, ne lui parla de rien, malgré son inquiétude. Mais au retour, elle prit le balai du poêle et effaça soigneusement sur la cendre la trace de ses pas, après qu'elle eut passé. Quand Anna et Baby se retrouvèrent dans la matinée, ce fut l'une avec sa froideur, l'autre avec son sourire accoutumé. Baby recevait parfois la visite d'un parent un peu plus âgé qu'elle. Il remplissait au temple les fonctions de gardien. On le voyait à l'heure du Gottesdienst, du service divin, faire sentinelle devant la porte de l'église, avec un brassard blanc à raies noires et glands d'argent, appuyé sur un jonc à bec recourbé. De son métier, il était fabricant de cercueils. Il se nommait Sammy Vici. Il était très grand, maigre, la tête un peu penchée, avec une face rasée et sérieuse de vieux paysan. Il était pieux, et connaissait comme pas un tous les bruits qui couraient sur toutes les âmes de la paroisse. Baby et Sammy pensaient à s'épouser. Ils appréciaient l'un dans l'autre leur qualité sérieuse, leur foi solide et leur méchanceté. Mais ils ne se pressaient pas de conclure, ils s'observaient prudemment. Dans les derniers temps, les visites de Sammy étaient devenues plus fréquentes. Il entrait sans qu'on le sût. Toutes les fois qu'Anna passait près de la cuisine, par la porte vitrée, elle apercevait Sammy assis près du fourneau et Baby à quelques pas, cousant. Ils avaient beau parler, on n'entendait aucun bruit. On voyait la figure épanouie de Baby et ses lèvres qui remuaient. La grande bouche sévère de Sammy se plissait, sans s'ouvrir, d'un rire grimaçant. Rien ne sortait du gosier. La maison semblait muette. Quand Anna entrait dans la cuisine, Sammy se levait respectueusement et restait debout sans parler, jusqu'à ce qu'elle fût sortie. Baby, en entendant la porte qui s'ouvrait, interrompait avec affectation un sujet indifférent et tournait vers Anna un sourire obséquieux en attendant ses ordres. Anna pensait qu'il parlait d'elle, mais elle les méprisait trop pour s'abaisser à les écouter en cachette. Le jour après qu'Anna eut déjoué le piège ingénieux des cendres, entrant dans la cuisine, le premier objet qu'elle vit, ce fut dans les mains de Sammy, le petit balai dont elle s'était servie la nuit pour effacer l'empreinte de ses pieds nus. Elle l'avait pris dans la chambre de Christophe, et à cette minute même, elle se ressouvint brusquement qu'elle avait oublié de l'y reporter. Elle l'avait laissé dans sa propre chambre, où les yeux perçants de Baby l'avaient aussitôt remarqué. Les deux compères avaient reconstitué l'histoire. Anna ne broncha point. Baby, suivant le regard de sa maîtresse, sourit avec exagération et expliqua « Le balai était cassé, je l'ai donné à Samy pour qu'il le réparât. » Anna ne se donna pas la peine de relever le grossier mensonge. Elle ne parut même pas entendre. Elle regarda l'ouvrage de Baby, fit ses observations et sortit impassible. Mais la porte fermée, elle perdit toute fierté. Elle ne put s'empêcher d'écouter, cachée dans l'angle du corridor. Elle était humiliée jusqu'à l'âme de recourir à de pareils moyens. Un gloussement de rire très bref, puis un chuchotement si bas qu'on ne pouvait rien distinguer. Mais, dans son affolement, Anna crut entendre. Sa terreur lui soufflait les mots qu'elle craignait d'entendre. Elle s'imagina qu'il parlait des mascarades prochaines et d'un charivari. Nul doute, il voulait y introduire l'épisode des cendres. Probablement elle se trompait, mais au point d'exaltation morbide où elle était hantée depuis 15 jours par l'idée fixe de la vanille, elle ne s'arrêta même pas à considérer l'incertain comme possible. Elle le regarda comme certain. Dès lors, sa décision fut prise. Le soir du même jour, c'était le mercredi qui précède les jours gras, Brown fut appelé en consultation à une 20 kilomètres de la ville. Il ne devait revenir que le lendemain matin. Anna ne descendit pas dîner et resta dans sa chambre. Elle avait choisi cette nuit pour exécuter l'engagement tacite qu'elle avait souscrit. Mais elle avait décidé de l'exécuter seule, sans rien dire à Christophe. Elle le méprisait. Elle pensait « Il a promis, mais il est homme, il est égoïste et menteur. Il a son art, il aura vite oublié. » Et puis, il y avait peut-être dans ce cœur violent qui semblait inaccessible à la bonté, il y avait peut-être place pour un sentiment de pitié à l'égard de son compagnon. Mais elle était trop rude et trop passionnée pour se l'avouer. Baby dit à Christophe que sa maîtresse la chargeait de l'excuser, qu'elle était un peu souffrante et voulait se reposer. Christophe soupa donc seul, sous la surveillance de Baby, qui le fatiguait de son verbiage, tâchait de le faire parler et protestait pour Anna d'un zèle si outré que Christophe, malgré la facilité qu'il avait à croire dans la bonne foi des gens, fut mis en défiance. Il comptait justement profiter de cette soirée pour avoir avec Anna un entretien décisif. Lui non plus, il ne pouvait différer davantage. Il n'avait pas oublié l'engagement qu'ils avaient pris ensemble à l'aube de cette triste journée. Il était prêt à le tenir si Anna l'exigeait. Mais il voyait l'absurdité de cette double mort qui ne résolvait rien et dont la douleur et le scandale devaient retomber sur Brown. Il pensait que le mieux était qu'ils s'arrachassent l'un à l'autre, qu'il essayât encore une fois de partir, si du moins il avait la force de rester éloigné d'elle. Il en doutait, après l'épreuve inutile qu'il venait de faire. Mais il se disait qu'au cas où il ne pourrait le supporter, il aurait toujours le temps de recourir seul au suprême moyen. Il espéra qu'après le souper, il pourrait s'échapper un moment pour monter dans la chambre d'Anna. Mais Baby ne quittait point ses pas. D'habitude, elle terminait de bonne heure son ouvrage. Ce soir-là, elle n'en finit plus de laver la cuisine. Et lorsque Christophe crut en être délivré, elle inventa de ranger un placard dans le corridor qui menait à la chambre d'Anna. Christophe la trouva solidement installée sur un escabeau. Il comprit qu'elle ne délogerait pas de toute la soirée. Il sentait une furieuse démangeaison de la jeter en bas avec ses piles d'assiettes. Mais il se contint et la pria d'aller voir comment sa maîtresse se trouvait, et s'il ne pourrait lui souhaiter le bonsoir. Baby alla, revint et dit, en l'observant avec une joie maligne, que madame allait mieux, qu'elle avait sommeil, et demandait que personne n'entrât. Christophe, irrité et nerveux, essaya de lire, ne put, et monta dans sa chambre. Baby guetta sa lumière jusqu'à ce qu'elle fût éteinte, et monta à son tour, se promettant de veiller. Elle eut la précaution de laisser sa porte entr'ouverte, afin de pouvoir entendre tous les bruits de la maison. Malheureusement pour elle, elle ne pouvait se mettre au lit sans s'endormir aussitôt, et d'un sommeil si puissant que ni le tonnerre, ni sa curiosité même, n'eussent été capables de l'éveiller avant qu'il fût jour. Ce sommeil n'était un secret pour personne. L'écho en arrivait jusqu'à l'étage au-dessous. Dès que Christophe entendit ce bruit familier, il alla chez Anna. Il fallait qu'il lui parlât. Une inquiétude le travaillait. Il arriva à la porte, il tourna le bouton. La porte était fermée. Il frappa doucement. Point de réponse. Il colla sa bouche contre la serrure, supplia à voix basse, puis avec insistance. Nul mouvement, nul bruit. Il avait beau se dire qu'Anna dormait, une angoisse le prit. Et comme, tâchant vainement d'entendre, il appuyait sa joue contre la porte, une odeur le frappa qui semblait sortir du seuil. Il se pencha et il la reconnut. C'était l'odeur du gaz. Son sang se glaça. Il secoua la porte, sans penser qu'il pouvait réveiller Baby. La porte ne céda pas. Il avait compris. Anna avait, dans le cabinet de toilette attenant à sa chambre, un petit poêle à gaz. Elle l'avait ouvert. Il fallait défoncer la porte. Mais, dans son trouble, Christophe garda assez de raison pour se rappeler qu'à aucun prix, Baby ne devait entendre. Il pesa sur un des battants, d'une énorme poussée, en silence. La porte, solide et bien close, craqua sur ses gonds, mais ne bougea point. Une autre porte donnait accès de la chambre d'Anna au cabinet de Brown. Il y courut. Elle était également fermée. Mais ici, la serrure était en dehors. Il entreprit de l'arracher. Ce n'était pas aisé. Il devait enlever les quatre grosses vis encastrées dans le bois. Il n'avait que son couteau, et il ne voyait rien. Car il n'osait pas allumer une bougie, il eût risqué de faire sauter l'appartement. En tâtonnant, il réussit à introduire son couteau dans la tête d'une vis, puis d'une autre, cassant les lames, se coupant. Il lui semblait que les vis étaient d'une longueur diabolique, qu'il ne finirait jamais de les arracher. Et en même temps, dans sa précipitation fébrile qui lui inondait le corps d'une sueur glacée, un souvenir d'enfance lui revenait à l'esprit. Il se revoyait, à 10 ans, enfermé par punition dans le cabinet noir. Il avait enlevé la serrure et fui de la maison. La dernière vis céda. La serrure sortit avec un grésillement de sciure de bois. Christophe se précipita dans la chambre, courut à la fenêtre, l'ouvrit. Une nappe d'air froid entra. Christophe, trébuchant au meuble, dans l'obscurité, trouva le lit, tâtonna, rencontra le corps d'Anna, de ses mains frémissantes palpa à travers les draps les jambes immobiles, remonta jusqu'à la taille. Anna était assise sur son lit et tremblait. Elle n'avait pas eu le temps d'éprouver les premiers effets de l'asphyxie. La chambre était haute du plafond, l'air circulait par les fentes de la fenêtre et des portes mal jointes. Christophe la prit dans ses bras. Elle se dégagea avec fureur, criant « Va-t'en ! Et qu'est-ce que tu as fait ? Ah, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle le frappa, mais brisée d'émotion, elle retomba sur l'oreiller. Elle sanglotait « Oh, oh, tout est à recommencer !» Christophe lui prit les mains, l'embrassant, la grondant, lui disant des paroles tendres et rudes. « Mourir, et mourir seul, sans moi ?»« Oh, toi » dit-elle amèrement. Son ton disait assez « Toi, tu veux vivre ?» Il la rudoya. Il voulut violenter sa volonté. « Folle, » dit-il, « tu ne sais donc pas que tu pouvais faire sauter la maison ?»« C'était ce que je voulais, » fit-elle avec rage. Il tâcha de réveiller ses craintes religieuses. C'était la corne juste. À peine y eut-il touché qu'elle commença à crier, à le supplier de se taire. Il persista sans pitié, pensant que c'était le seul moyen de ramener la volonté de vivre. Elle ne disait plus rien. Elle avait des hoquets convulsifs. Quand il eut fini, elle lui dit, d'un ton de haine concentré, « Tu es content maintenant. Tu as bien travaillé. Tu as achevé de me désespérer. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?»« Vivre, » dit-il. « Vivre, » cria-t-elle, « mais tu ne sais donc pas que c'est impossible. Tu ne sais rien, tu ne sais rien. » Il demanda, « Qu'y a-t-il ? » Elle haussa les épaules. « Écoute. » Elle lui raconta en phrases brèves, hachées, tout ce qu'elle lui avait caché jusqu'à présent. L'espionnage de Baby, les cendres, la scène avec Samy, le carnaval, l'affront imminent. Elle ne distinguait plus, en racontant, ce que sa crainte avait forgé de ce qu'elle avait raison de craindre. Il écoutait, consterné, plus incapable qu'elle encore de discerner dans le récit le danger réel de l'imaginaire. Il était à 1000 lieues de soupçonner la chasse qu'on leur faisait. Il cherchait à comprendre. Il ne pouvait rien dire. Contre de tels ennemis, il était désarmé. Il ressentait seulement une fureur aveugle, le désir de frapper. Il dit « Pourquoi n'as-tu pas chassé Baby ?» Elle dédaigna de répondre. Baby chassée eût été plus venimeuse encore que Baby tolérée. Et Christophe comprit le non-sens de la question. Ses pensées se heurtaient. Il cherchait un parti à prendre, une action immédiate. Il dit les poings crispés, Je l'ai tuerai.
Qui ? Fit-elle méprisante pour ces mots inutiles.
Sa force tomba. Il se vit perdu dans ce réseau de trahisons obscures où l'on ne pouvait rien saisir, où tous étaient complices.
« Lâche ! » cria-t-il accablé.
Il s'effondra à genoux devant le lit, son visage pressé contre le corps d'Anna. Ils se turent. Elle éprouvait un mélange de mépris et de pitié pour cet homme qui ne savait ni la défendre ni se défendre. Il sentait contre sa joue trembler de froid les jambes d'Anna. La fenêtre était restée ouverte et dehors il gelait. Dans le ciel lisse comme un miroir, frissonnaient les étoiles glacées. Quand elle eut savouré l'amère jouissance de le voir brisé comme elle, elle dit d'un ton dur et lassé « Allumez une bougie ». Il alluma. Anna claquait les dents, ramassée sur elle-même, les bras serrés contre les seins, les genoux repliés sous le menton. Il ferma la fenêtre. Il s'assit sur le lit. Il prit dans ses mains les pieds d'Anna d'un froid de glace. Il les réchauffa avec ses mains, avec sa bouche. Elle fut attendrie. « Christophe, » dit-elle. Elle avait des yeux lamentables. « Anna, » dit-il, « qu'allons-nous faire ?» Il la regarda et dit « Mourir ». Elle eut un cri de joie. « Oh, tu veux bien ? Tu veux aussi ? Je ne serai pas seule. » Elle l'embrassait. « Croyais-tu donc que j'allais te laisser ?» Elle répondit à voix basse « Oui ». Il sentit ce qu'elle avait dû souffrir. Après quelques instants, il l'interrogea du regard. Elle comprit. « Dans le bureau, dit-elle, à droite, le tiroir du bas. » Il alla et chercha. Tout au fond, il vit un revolver. Brown l'avait acheté quand il était étudiant. Il ne s'en était jamais servi. Dans une boîte crevée, Christophe trouva quelques cartouches. Il les rapporta vers le lit. Anna regarda et détourna aussitôt les yeux vers la ruelle. Christophe attendit. Puis il demanda « Tu ne veux plus ?» Anna se retourna vivement. « Je veux, vite !» Elle pensait « Rien ne peut plus me sauver maintenant de l'abîme éternel. Un peu plus, un peu moins, ce sera toujours de même. » Christophe chargea maladroitement le revolver. « Anna, » dit-il d'une voix tremblante, « l'un des deux verra mourir l'autre. » Elle lui arracha l'arme des mains et dit avec égoïsme « Moi d'abord. » Ils se regardèrent encore. Hélas, dans ce moment même où ils allaient mourir l'un pour l'autre, ils se sentaient si loin l'un de l'autre. Chacun pensait avec terreur « Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Et chacun le lisait dans les yeux de l'autre. L'absurdité de l'acte frappait surtout Christophe. Toute sa vie inutile, inutile ses luttes, inutile ses souffrances, inutile ses espoirs. Tout jeté au vent, gâché. Un geste médiocre allait tout effacer. Dans son état normal, il eut arraché le revolver des mains d'Anna, il l'eut jeté par la fenêtre. Il eut crié « Non, je ne veux pas !» Mais 8 mois de souffrance, de doute et de deuil torturant, et par là-dessus cette rafale de passion démente, avait ruiné ses forces, brisé sa volonté. Il sentait qu'il n'y pouvait plus rien, il n'était plus le maître. Ah, qu'importe après tout ! Anna, sûre de la mort éternelle, tendait son être dans la possession de cette dernière minute de vie. La figure douloureuse de Christophe, éclairée par la bougie vacillante, les ombres sur le mur, un bruit de pas dans la rue, le contact de l'acier qu'elle tenait dans sa main. Elle s'accrochait à ses sensations comme un naufragé à l'épave qui s'enfonce avec lui. Après, tout est erreur. Pourquoi ne pas prolonger l'attente ? Mais elle répétait « Il faut ». Elle dit adieu à Christophe sans tendresse, avec la hâte d'un voyageur pressé qui craint de manquer le train. Elle ouvrit sa chemise, tâta le cœur et y appuya le canon du revolver. Christophe, agenouillé, se cachait la figure dans les draps. Au moment de tirer, elle posa sa main gauche sur la main de Christophe. Le geste d'un enfant qui a peur de marcher dans la nuit. Alors s'écoulèrent quelques secondes effroyables. Anna ne tirait pas. Christophe voulait relever la tête, il voulait saisir le bras d'Anna, et il craignait que ce mouvement même ne la décidât à tirer. Il n'entendait plus rien, il perdait connaissance. Un gémissement. Il se redressa. Il vit Anna, le visage décomposé de terreur. Le revolver était tombé sur le lit devant elle. Elle répétait plaintivement « Christophe, le coup n'est pas parti. »
Il prit l'arme. Le long oubli où elle était restée l'avait rouillé, mais le fonctionnement était bon. Peut-être la cartouche avait été détériorée par l'air. Anna tendit la main vers le revolver. « Assez !» supplia-t-il. Elle ordonna. « Les cartouches !» Il les lui remit. Elle les examina, en prit une, chargea sans cesser de trembler, appuya de nouveau l'arme sur son sein et tira. Le coup rata encore. Anna jeta le revolver dans la chambre. « Ah, c'est trop !» cria-t-elle. « Il ne veut pas que je meure !» Elle se tordait dans ses draps. Elle était comme folle. Il voulut l'approcher. Elle le repoussa avec des cris. Enfin, elle eut une attaque de nerfs. Christophe resta près d'elle jusqu'au matin. Elle finit par se calmer, mais sans souffle, les yeux fermés, les os du front et les pommettes tendant la peau livide. Elle semblait une morte. Christophe refit le lit bouleversé, ramassa le revolver, remit la serrure arrachée, rangea tout dans la chambre et partit, car il était 7 heures et Baby allait venir. Quand Brown rentra le matin, il trouva Anna dans la même prostration. Il vit bien qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire, mais il ne put rien savoir de Baby ni de Christophe. De tout le jour, Anna ne bougea point. Elle n'ouvrit pas les yeux. Son pouls était si faible qu'on le sentait à peine. Par moments, il s'arrêtait et Brown eut l'angoisse de croire, un instant, que le cœur avait cessé de battre. Son affection le faisait douter de sa science. Il courut chez un confrère et il le ramena. Les deux hommes examinèrent Anna et ne purent décider s'il s'agissait d'une fièvre qui commençait ou d'un cas de névrose hystérique. Il fallait tenir la malade en observation. Brown ne quitta pas le chevet d'Anna. Il refusa de manger. Vers le soir, le pouls d'Anna n'indiquait pas de fièvre, mais une faiblesse extrême. Brown tâcha de lui introduire dans la bouche quelques cuillerées de lait. Elle les rendit aussitôt. Son corps s'abandonnait dans les bras de son mari comme un mannequin brisé. Brown passa la nuit assis près d'elle, se levant à tout instant pour l'écouter. Baby, que la maladie d'Anna ne troublait guère, mais qui était la femme du devoir, refusa de se coucher et veilla avec Brown. Le vendredi, Anna ouvrit les yeux. Brown lui parla. Elle ne prit pas garde à sa présence. Elle était immobile, les yeux fixés sur un point de la muraille. Vers midi, Brown vit de grosses larmes qui coulaient le long de ses joues maigres. Il les essuya avec douceur. Une à une, les larmes continuaient de couler. De nouveau, Brown essaya de lui faire prendre quelque aliment. Elle se laissa faire passivement. Dans la soirée, elle se mit à parler. C'étaient des mots sans suite. Il s'agissait du rein. Elle voulait se noyer, mais il n'y avait pas assez d'eau. Elle persistait en rêve dans ses tentatives de suicide, imaginant des formes de mort bizarres. Toujours la mort se dérobait. Parfois, elle discutait avec quelqu'un, et sa figure prenait alors une expression de colère et de peur. Elle s'adressait à Dieu et s'entêtait à lui prouver que la faute était à lui. Ou la flamme d'un désir s'allumait dans ses yeux, et elle disait des mots impudiques qu'il ne semblait pas qu'elle pût connaître. Un moment, elle remarqua Baby et lui donna avec précision des ordres pour la lessive du lendemain. Dans la nuit, elle s'assoupit. Tout à coup, elle se souleva. Brown accourut. Elle le regarda d'une façon étrange, balbutiant des mots impatients et informes. Il lui demanda « Ma chère Anna, que veux-tu » Elle dit d'une voix âpre « Va le chercher !»« Qui » demanda-t-il. Elle le regarda encore avec la même expression, brusquement éclata de rire. Puis elle se passa les mains sur le front et gémit. « Ah, mon Dieu ! Oublié !» Le sommeil la reprit. Elle fut calme jusqu'au jour. Vers l'aube, elle fit quelques mouvements. Brown lui souleva la tête pour lui donner à boire. Elle avala docilement quelques gorgées, et, se penchant vers les mains de Brown, elle les embrassa. Elle s'assoupit de nouveau. Le samedi matin, elle s'éveilla vers 9 heures. Sans dire un mot, elle sortit les jambes du lit et voulut descendre. Brown se précipita vers elle et essaya de la recoucher. Elle s'obstina. Il lui demanda ce qu'elle voulait faire. Elle répondit « Aller au culte ». Il essaya de la raisonner, de lui rappeler que ce n'était pas dimanche, que le temple était fermé. Elle se taisait, mais assise sur la chaise près du lit, elle passait ses vêtements de ses doigts grelottants. Le docteur, ami de Brown, rentra.
Il joignit ses instances à celles de Brown. Puis, voyant qu'elle ne cédait pas, il l'examina et finalement consentit. Il prit Brown à part et lui dit que la maladie de sa femme semblait toute morale, qu'on devait pour l'instant éviter de la contrarier et qu'il ne voyait pas de danger à ce qu'elle sortît, pourvu que Brown l'accompagna. Brown dit donc à Anna qu'il irait avec elle. Elle refusa et voulut aller seule. Mais dès le premier pas dans la chambre, elle trébucha. Alors, sans un mot, elle prit le bras de Brown, et ils sortirent. Elle était très faible et s'arrêtait en route. Plusieurs fois, il lui demanda si elle voulait rentrer. Elle se remit à marcher. Arrivée à l'église, comme il le lui avait dit, ils trouvèrent porte close. Anna s'assit sur un banc, près de l'entrée, et resta frissonnante jusqu'à ce que midi sonna. Puis elle reprit le bras de Brown et ils revinrent en silence. Mais le soir, elle voulut retourner à l'église. Les supplications de Brown furent inutiles. Il fallut repartir. Christophe avait passé ses deux jours dans l'isolement. Brown était trop inquiet pour songer à lui. Une seule fois, le matin du samedi, cherchant à détourner Anna de son idée fixe de sortir, il lui avait demandé si elle voulait voir Christophe. Elle avait eu une expression d'épouvante et de répulsion si forte qu'il en avait été frappé, et le nom de Christophe n'avait plus été prononcé. Christophe s'était enfermé dans sa chambre. Inquiétude, amour, remords, tout un chaos de douleurs s'entrechoquaient en lui. Il s'accusait de tout. Il succombait sous le dégoût de lui-même. Plusieurs fois, il s'était levé pour tout avouer à Brown, aussitôt arrêté par l'idée, en s'accusant, de faire un malheureux de plus. La passion ne lui faisait pas grâce. Il rôdait dans le couloir, devant la chambre d'Anna, et dès qu'il entendait à l'intérieur des pas s'approcher de la porte, il s'enfuyait chez lui. Quand Brown et Anna sortirent dans l'après-midi, il les guetta, caché derrière le rideau de sa fenêtre. Il vit Anna. Elle, si droite et si fière, elle avait le dos voûté, la tête courbée, le teint jaune. Vieillie, écrasée par le manteau et le châle dont son mari l'avait couverte, elle était laide. Mais Christophe ne vit pas sa laideur, il ne vit que sa misère. Et son cœur déborda de pitié et d'amour. Il eût voulu courir à elle, se prosterner dans la boue, baiser ses pieds, ce corps ravagé par la passion, implorer son pardon. Et il pensait, la regardant, « Mon ouvrage, le voici. » Mais son regard dans la glace rencontra sa propre image. Il vit sur ses traits la même dévastation. Il vit la mort inscrite en lui, ainsi qu'en elle, et il pensa « Mon ouvrage ? Non pas. L'ouvrage du maître cruel, qui affole et qui tue. » La maison était vide. Baby était sorti pour raconter aux voisins les événements de la journée. Le temps passait. 5 heures sonnèrent. Une terreur prit Christophe à l'idée d'Anna qui allait rentrer et de la nuit qui venait. Il sentit qu'il n'aurait pas la force de rester cette nuit sous le même toit. Il sentit sa raison craquer sous le poids de la passion. Il ne savait ce qu'il ferait, il ne savait ce qu'il voulait, sinon qu'il voulait Anna, à quelque prix que ce fût. Il pensa à cette misérable figure qu'il avait vue passer tout à l'heure sous sa fenêtre, et il se dit « La sauver de moi !» Un coup de volonté souffla. Il ramassa par poignée les liasses de papier qui traînaient sur sa table, les ficela, prit son chapeau, son manteau et sortit. Dans le corridor, près de la porte d'Anna, il précipita le pas, pris de peur. En bas, il jeta un dernier coup d'œil sur le jardin désert. Il se sauva comme un voleur. Un brouillard glacé traversait la peau avec des aiguilles. Christophe rasait le mur des maisons, craignant de rencontrer une figure connue. Il alla à la gare. Il monta dans un train qui partait pour Lucerne. À la dernière station, il écrivit à Brown. Il disait qu'une affaire urgente le l'appelait pour quelques jours hors de la ville et qu'il se désolait de le laisser en un pareil moment. Il le priait de lui envoyer des nouvelles à une adresse qu'il lui indiqua. À Lucerne, il prit le train du Gothard. Dans la nuit, il descendit à une petite station entre Altdorf et Göschenen. Il n'en sut pas le nom, il ne le sut jamais. Il entra dans la première hôtellerie près de la gare. Des mares d'eau coupaient le chemin, il pleuvait à torrents. Il plut toute la nuit, il plut tout le lendemain. Avec un bruit de cataracte, l'eau tombait d'une gouttière crevée. Le ciel et la terre étaient noyés, dissous, comme sa pensée. Il se coucha dans des draps humides qui sentaient la fumée du chemin de fer. Il ne put rester couché.
L'idée des dangers que courait Anna l'occupait trop pour qu'il eût le temps de sentir sa propre souffrance. Il fallait donner le change à la malignité publique, la lancer sur une autre piste. Dans la fièvre où il était, il eut une idée bizarre. Il inventa d'écrire à un des rares musiciens avec qui il se fût un peu lié dans la ville, à Krebs, l'organiste confiseur. Il lui laissa entendre qu'une affaire de cœur l'entraînait en Italie, qu'il subissait déjà cette passion quand il était venu s'installer chez Brown, qu'il avait essayé de s'y soustraire, mais qu'elle était la plus forte. Le tout en termes assez clairs pour que Krebs comprît, assez voilé pour qu'il pût y ajouter de son propre fond. Christophe priait Krebs de lui garder le secret. Il savait que le brave homme était d'un bavardage maladif, et il comptait, justement, qu'à peine la nouvelle reçue, Krebs courrait la colporter par toute la ville. Pour achever de détourner l'opinion, Christophe terminait sa lettre par quelques mots très froids sur Brown et sur la maladie d'Anna. Il passa le reste de la nuit et de la journée suivante incrusté dans son idée fixe. Anna, Anna. Il revivait avec elle les derniers mois, jour par jour. Il la voyait au travers d'un mirage passionné. Toujours, il l'avait créée à l'image de son désir, lui prêtant une grandeur morale, une conscience tragique, dont il avait besoin pour l'aimer davantage. Ces mensonges de la passion redoublaient d'assurance, maintenant que la présence d'Anna ne les contrôlait plus. Il voyait une saine et libre nature, opprimée, qui se débattait contre ses chaînes, qui aspirait à une vie franche, large au plein air de l'âme, et puis qui en avait peur, qui combattait ses instincts, parce qu'il ne pouvait s'accorder avec sa destinée, et qu'il la lui rendait plus douloureuse encore. Elle lui criait « À l'aide !» Il étreignait son beau cœur, ses souvenirs le torturaient. Il trouvait un plaisir meurtrier à redoubler leurs blessures. À mesure que la journée avançait, le sentiment de tout ce qu'il avait perdu lui devint si atroce qu'il ne pouvait plus respirer. Sans savoir ce qu'il faisait, il se leva, sortit, paya l'hôtel et reprit le premier train qui revenait à la ville d'Anna. Il arriva dans la nuit, il alla droit à la maison. Un mur séparait la ruelle du jardin contigu à celui de Brown. Christophe escalada le mur, sauta dans le jardin étranger, passa de là dans le jardin de Brown. Il se trouvait devant la maison. Tout était dans le noir, sauf une lueur de veilleuse qui teintait d'un reflet d'ocre une fenêtre, la fenêtre d'Anna. Anna était là, elle souffrait là. Il n'avait plus qu'un pas à faire pour rentrer. Il avança la main vers la poignée de la porte. Puis il regarda sa main, la porte, le jardin. Il prit soudain conscience de son acte, et, s'éveillant de l'hallucination qui le possédait depuis 7 à 8 heures, il frémit, il s'arracha par un sursaut à la force d'inertie qui le rivait les pieds au sol. Il courut au mur, le repassa et s'enfuit. Dans la même nuit, il quittait la ville pour la seconde fois, et le lendemain, il allait se terrer dans un village de montagne sous les rafales de neige, ensevelir son cœur, endormir sa pensée, oublier, oublier. E però leva su, vinci l'ambascia, con l'animo che vince ogni battaglia, se col suo grave corpo non s'accascia. Levami allora, mostrandomi fornito, meglio di lena ch'io non mi sentia, e dissi, va, ch'io son forte et ardito. Inferno 24. Lève-toi donc, triomphe de l'angoisse avec l'esprit qui vainc en tout combat s'il ne s'affole pas du fardeau de son corps. Sur ce, je me levai et je me donnai l'air d'avoir souffle meilleur que je ne me sentais. Et je m'écriai, va, je suis fort et hardi.